suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel.
Il est 7-8 heures passées de quelques minutes sur les ondes de Radio Campus 106,6. Et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien?
Bonjour Max, et toi?
Mais oui, très bien. Et donc, tu as enfin invité l'invité que j'attendais depuis si longtemps.
Mais oui, tu me suppliais, tu disais, mais je veux une version qui me ressemble. Eh bien oui, je t'ai trouvé, Vincent Liégé. Bonjour Vincent.
Bonjour à toutes et tous.
Tu entends la pression et l'attente?
Ah, elle est énorme.
Alors Vincent, donc tu t'appelles Vincent Liégé, tu es ingénieur, chercheur et spécialiste de la décroissance. Moi je t'ai rencontré il y a déjà quelques années quand tu es passé au Mouvement français pour le revenu de base pour nous présenter ta version de revenu de base et puis le projet de décroissance en général. Et les Français ont pu te voir assez récemment dans Le Monde, dans diverses télés, parce que tu es aussi auteur ou co-auteur de différents livres. Je vais en citer très rapidement. Donc en 2013, un projet de décroissance où tu as posé avec d'autres co-auteurs la dotation inconditionnelle d'autonomie aux éditions Utopia dont on va parler. Mais tu as récidivé en 2021 avec la décroissance Fake or Not avec Isabelle Brockmann, avec qui tu as aussi co-écrit très récemment, c'est sorti en février 2023, Sobriété, entre parenthèses, la vraie, mode d'emploi. Et donc voilà, merci beaucoup d'être là. Et si tu es d'accord, je vais d'abord te passer à la moulinette de notre devinette. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, c'est à ton nom, il n'y a rien à faire. Et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que ça change pour toi?
Je suis un peu privilégié parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à m'auto-instituer avec notre coopérative décroissante à Budapest Cargonomia. Donc, je ne changerai pas grand-chose.
D'accord.
Mais je continuerai à vivre la joie de vivre comme je la vis au quotidien, entre une vie qui s'articule avec la tête, le cœur et les mains, à la fois dans l'humus, dans la terre, dans le cambouis, dans des beaux projets autour de l'autogestion, autour de jolis festivals qu'on organise, et puis des beaux projets de réflexion, de discussion, de débat, de recherche sur comment on pourrait continuer à orienter nos sociétés vers de nouveaux modèles de société libérés de la croissance, mais riches de soutenabilité et de joie de vivre.
Et donc là, le monde entier qui nous écoute, bien sûr, est rassuré. Et oui, quand on a un revenu de base, on continue à travailler et ça a l'air même joyeux à t'écouter.
En fait, on prend plutôt le risque du burn-out en permanence, puisqu'on est condamné tous les jours à se réveiller riche de créativité et d'enthousiasme et de belles relations et de belles activités, de trop de projets. Et comment trouver l'équilibre pour savoir dire non par moment autour de certains projets. Donc oui, on ne s'arrête pas, au contraire, on reprend le sens de nos vies autour d'activités choisies et riches de sens.
Waouh, ça donne envie. Bon, bah écoute, on a envie de découvrir la dotation inconditionnelle d'autonomie. Est-ce que tu peux commencer d'abord par nous parler de son ambition, de son projet de société, de ses intentions derrière?
Alors c'est une notion qui est née à la fin des années 2000 au sein des réseaux de la décroissance en France, où naturellement avec la décroissance on s'est très vite intéressé aux revenus de base. Nous, ce qui nous intéressait beaucoup dans la dimension du revenu de base, c'était surtout deux dimensions. La première, repenser la place du travail dans nos sociétés, puisque la décroissance invite à sortir du productivisme, donc nécessairement à sortir du travail tel qu'on l'imagine aujourd'hui, de faire sortir un peu le hamster de sa roue. On court toujours plus vite pour produire des choses toujours plus inutiles. Et on trouvait que le revenu de base était un outil extrêmement intéressant pour, avec son inconditionnalité, pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de se libérer d'emplois contraints et de se réapproprier des activités choisies riches de sens, loin du productivisme et plus autour du partage, de l'entraide, du care, de la joie de vivre, et puis d'activités ludiques autour du jardinage, de l'auto-réparation, ou simplement prendre le temps de bien vivre, de s'occuper de ses enfants, de voyager, de faire du vélo, de se balader, de lire, de penser, ou retrouver les joies du droit à la paresse, comme parlait Paul Lafargue. Donc c'est vraiment cette première dimension, sortir d'une société du travail, sortir du productivisme en nous libérant du travail contraint, imposé par notre modèle économique.
Et du fameux « travailler plus pour gagner plus
». Exactement, exactement. Ouais. Et la deuxième dimension qui nous interpellait, au-delà de tout ce que le revenu de base peut apporter, parce que je crois qu'il est vraiment, extrêmement intéressant sous beaucoup d'aspects, mais la deuxième qui nous interpellait et qui nous intéressait beaucoup, c'était la question de la démocratie autour de ce que dans la décroissance, on évoque cette notion d'autonomie, comment repenser des formes de démocratie où chaque citoyenne, chaque citoyen est en capacité, de participer à la vie démocratique et de s'auto-imposer, de s'auto-instituer ses propres limites, ses règles de vie communes, avec ce principe que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, comment on crée une société de citoyens à la fois conscients, conscientisés, et qui a du temps pour réfléchir et choisir ce qu'il fait de sa vie en prenant en compte les enjeux de justice sociale environnementale, les enjeux de limites environnementales. Et aujourd'hui, un des gros freins dans cette société dite démocratique, c'est une fois de plus le travail contraint, où on voit à travers un certain nombre de batteries de statistiques, les gens aujourd'hui souffrent dans des emplois toujours plus dénués de sens. Alors dans le meilleur des cas, on a un boulot dans lequel on fait des choses qui n'ont pas grand sens mais qui ne sont pas trop toxiques pour la société. Mais dans le pire des cas, on est amené dans son quotidien à produire des choses ou à participer à des décisions, à participer à des formes d'organisation sociale aussi extrêmement violentes qui vont à l'encontre de ce à quoi on aspire, qui vont à l'encontre de notre éthique. Et puis naturellement, autour du revenu de base, il y a cette réflexion qui nous intéressait sur la décroissance des inégalités, d'abandonner personne, parce que, comme disait Hannah Arendt, dans une société de travail sans travail, qu'on appelle le chômage, qui est une construction sociale, il y a rien de pire. Et aujourd'hui, les gens qui sont à la fois sans travail souffrent, les gens qui sont les premiers de corvée avec des jobs essentiels, mais très très mal rémunérés, voire méprisés par notre système économique, souffrent alors qu'ils sont fondamentaux pour notre bien-être. Et puis les gens qui ont des emplois style bullshit job ou toxiques souffrent par la perte de sens dans leur travail. Et donc, d'un point de vue démocratique, il est important de pouvoir se réapproprier son temps, de pouvoir se réapproprier la manière dont on peut appliquer nos savoir-faire, nos compétences, notre créativité, qui sont merveilleux, à des choses ludiques et riches de sens plutôt que la machine productiviste.
Et ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est ça, à travers l'idée de citoyen, de démocratie. Donc c'est une réappropriation de notre pouvoir de décision, de réflexion en amont et du coup d'action. Et que c'est pas triste en fait. Enfin, quand tu parles de décroissance, on entend une prise de responsabilité, mais qui est pas lourde. Au contraire, j'entends que ça réenchante la vie parce que c'est choisi et en tout cas en t'écoutant, ça a l'air très bien vécu.
Ça a l'air très bien vécu. Les expérimentations concrètes, au-delà de celles qu'on peut avoir dans nos petits milieux privilégiés de décroissance et de décroissance, montrent que ça fonctionne plutôt bien quand on fait confiance aux citoyens ou aux citoyennes. C'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, dans le cadre de conventions citoyennes comme celle qui a eu lieu pour le climat ou celle qui est en cours sur la fin de vie. En général, quand on propose aux personnes dans une société d'être vraiment des citoyens respectés, reconnus dans leur diversité de pensée, leur diversité de savoir-faire, leur diversité d'aspiration. Bon, en général, ils vont rarement développer de la 5G ou des choses stupides et inutiles et les imposer violemment aux autres. Ils vont plutôt faire le choix de l'entraide, du partage, du sens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans les parties non négligeables de nos vies qui sont à l'extérieur de la logique marchande du travail, même si on a cette phrase qui est « tout travail mérite salaire », la majorité des tâches essentielles au bien-être de notre société sont faites à l'extérieur de l'espace marchand, ne sont pas rémunérées. Je pense notamment au care, principalement porté par, par les femmes de manière inégale, même si on y travaille pour équilibrer un certain nombre de choses. On part d'extrêmement loin dans les imaginaires et dans les organisations sociales. Il n'y a pas besoin de salaire ni de bâton d'un chef pour que les parents s'occupent bien de leurs enfants, pour que la vie au sein d'une famille, quand on part en vacances, de manière autogérée, s'organise plutôt bien. Et on peut le faire dans la joie et la bonne humeur à condition de bien répartir toutes ces belles choses. Donc on a déjà des pans entiers de nos vies qui sont organisés à l'extérieur de cette logique de travail, emploi, rémunération, et ça se passe de manière plutôt joyeuse. Et les deux autres exemples qu'on peut prendre, c'est autour du bénévolat. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, des chiffres que j'avais en tête dans un pays comme la France, c'est autour de 10-12 millions de personnes qui sont bénévoles dans des milieux tissus associatifs, qui sont des choses qui sont essentielles dans la société violente, dans la société d'inégalité, dans la société qui désocialise d'ailleurs, qui sont essentielles pour continuer à maintenir du lien social, des solidarités informelles, de l'entraide, donner la main à celles et ceux qui, par des parcours de vie mal nés, peuvent être abandonnés. Donc faire société, et puis puisqu'on est encore dans un non-débat pour le coup, dans cette tension extrêmement violente, quand je parle de violence, la brutalité non-démocratique avec laquelle la question des retraites et cette réforme des retraites est mise en place en France, et la répression policière, la question des retraites est extrêmement intéressante, parce que déjà dans sa sémantique, on voit à quel point on a des biais idéologiques qui nous empêchent de penser et d'aborder sérieusement la question des activités riches de sens et de ce dont on a vraiment besoin pour bien vivre. On parle de se retirer, donc il y aurait soi-disant un temps dans la société où on est en âge de travailler actif, donc on est exploité à produire des choses inutiles, et après on se retire, donc on est un citoyen de seconde zone assisté. Inactif. Alors qu'en fait, quand on regarde dans le détail, les retraités, toutes choses égales par ailleurs, c'est pas homogène, les retraités sont aussi des gens extrêmement importants pour les équilibres sociaux, sociétaux dans nos familles, pour celles et ceux qui ont des jeunes enfants à la maison, ils savent l'importance des grands-parents pour filer un coup de main dans cette période qui est très joyeuse, mais pas toujours des plus évidentes, surtout si les deux parents reprennent une activité professionnelle. Et puis, les retraités sont très présents, comme je disais, dans le tissu associatif, et aussi, et c'est extrêmement important face à une démocratie qui est en grande souffrance, aussi en tant qu'élu de proximité, etc., qui a un rôle civique extrêmement essentiel. Et on voit à quel point ce modèle de société organisé autour du travail, qui est quelque chose de très récent, autour de la valeur travail, donc l'emploi rémunéré, contraint, où on dépossède les gens du choix de ce qu'ils pourraient faire, de leurs compétences, de leur temps, est quelque chose qui est bourré de biais, et la vie est beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus complexe quand on regarde tout cela avec d'autres lunettes.
Oui, j'entends qu'effectivement on change de paradigme parce qu'on sort, comme on sort du subi, on sort aussi de cette impuissance toxique qu'on ressent tous en regardant que ce soit les inégalités sociales ou ce que devient la planète. Et alors pour rajouter un chiffre qui va dans ton sens, on estime en France, par rapport au nombre d'heures de travail, et je dis bien travail au sens large, il y a 2/3 de ces heures de travail qui sont en fait hors emploi. Donc voilà, tu as cité plusieurs exemples, le bénévolat, les retraités, ou le care à la maison, l'éducation, ou même mon ménage. Quand je fais mes carreaux, je ne paye pas quelqu'un et pourtant je le fais quand même, et c'est sûr, c'est une forme de temps de travail.
Exactement, il n'y a pas besoin qu'il y ait un chef derrière toi pour te taper sur les doigts si c'est mal fait, tu vas le faire parce que ça a du sens. Oui. Et puis c'est extrêmement intéressant, donc c'est 2/3, donc ça représente la grande majorité de notre temps vécu.
Tout à fait.
Et je dirais que si on fait une analyse pas uniquement quantitative, mais qualitative, je dirais que ça représente largement bien plus que 2/3 des choses qui sont essentielles au bien-être de nos sociétés, aux équilibres sociaux, qui font que la vie mérite d'être vécue. Et de plus en plus, le tiers restant rémunéré, et qui plus est, de plus un travail est bien rémunéré, plus il va être toxique pour la société, le tiers restant va plutôt générer du mal-être, du stress, de produire des choses fondamentalement inutiles, un impact environnemental, là je prends ma casquette décroissante, qui va être dévastatrice. Plus de PIB veut dire plus d'impact environnemental, et le PIB calcule justement ce temps de travail rémunéré et non pas la partie non rémunérée. Donc on a vraiment cette tension, et d'un point de vue de la décroissance, pour nous le revenu de base est un outil extrêmement intéressant mais pas suffisant, et on va y venir, je pense, dans l'émission, est un outil extrêmement intéressant pour sortir de cette aliénation à l'emploi contraint et une aliénation à devoir subir une hétéronomie, c'est-à-dire une appropriation par d'autres personnes de comment on va utiliser ce tiers de temps merveilleux qui pourrait être utilisé de manière beaucoup plus chouette.
Oui, je te remercie de faire le lien aussi parce que effectivement, c'est une des particularités de la dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est que c'est pas seulement un outil, vous avez aussi pensé tout un projet de société autour. Donc il y a d'autres outils. Je mets des guillemets à outils parce que en même temps, effectivement, c'est un outil très concret et en même temps avec une intention tellement forte que ça dépasse largement juste le mot d'outil. Effectivement, vous l'envisagez pas tout seul, vous l'associez avec d'autres éléments.
Alors tout à fait, là, on a eu plusieurs réflexions. Alors, d'abord, quand on est décroissant, puisque le terme décroissance est un slogan provocateur qui est un empêcheur de penser en rond, un poil à gratter idéologique. Donc quand on s'est intéressé au revenu de base, on s'est tout de suite intéressé aux différentes critiques qu'il pouvait y avoir sur le revenu de base. Il y en a certaines qui ne sont pas fondées et peu sérieuses, donc on n'a pas perdu beaucoup de temps par rapport à celles-là, mais il y en a d'autres qui sont assez intéressantes. Le revenu de base, je dirais, comme tout outil technique, économique, social, etc., peut, en fonction du contexte culturel, politique, en fonction du cadre politique dans lequel il se met en place, peut avoir des effets tout à fait intéressants et salvateurs pour une certaine partie de la population, mais peut aussi s'avérer être tout à fait toxique ou contre-productif pour d'autres personnes ou par rapport à certaines ambitions politiques. Et donc, nous, on a souhaité encadrer le revenu de base d'un certain nombre de mesures complémentaires et parallèles et de faire un package qui reprend un peu tout ça autour de la dotation inconditionnelle d'autonomie couplée à un revenu maximum acceptable. Et pour aller vite, parce que je pourrais passer des heures à expliquer toutes ces réflexions, je dirais qu'on pourrait décliner suivant trois dimensions ce qui nous a fait articuler le revenu de base avec d'autres réflexions. La première, c'est celle du danger que représente le fait de n'utiliser qu'une monnaie. Cette monnaie étant aujourd'hui l'euro pour la France, mais on pourrait décliner autour de monnaie nationale ou de revenir au franc ou en Hongrie d'où je vous parle aujourd'hui au forint. Le problème il est, c'est que si on commence à faire tourner la planche à billets ou on commence à distribuer juste de l'argent aux personnes dans une logique de revenu de base, il y a un très fort risque d'inflation qui va suivre tout de suite le revenu de base qu'on a donné et une redistribution du cap, ce qui fait que tout le monde aura ce revenu de base, mais les prix ont augmenté d'une telle manière qu'on restera condamné à devoir travailler comme on travaille encore aujourd'hui.
On ne gagnera donc pas en pouvoir d'achat, quoi.
Exactement. Et donc, on connaît très bien comment fonctionne le système économique. L'argent est un contrat social. Aujourd'hui, un contrat social qui n'est pas très négocié d'un point de vue démocratique. Et donc, le revenu de base doit s'accompagner d'une réflexion à la fois sur la place de la monnaie dans notre société. Et si on continue à utiliser de la monnaie telle que c'est le cas aujourd'hui, sur une reprise en main démocratique des outils qui régissent le fonctionnement de cette monnaie, qui va de la banque centrale en passant par la notion de création monétaire et puis par extension sur aujourd'hui une économie financiarisée qui est totalement hors de contrôle démocratique, même peut-être hors de contrôle des grandes banques qui tant bien que mal essayent de continuer à gérer cette financiarisation totalement délirante d'une quantité monstrueuse d'argent qui circule et qui est déconnectée de toute économie réelle. Donc toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Et puis une autre réflexion sur la question des dettes publiques est intimement liée à tous ces enjeux. Et on voit à quel point la notion de dette publique est très présente dans les débats politiques comme étant un frein de mettre en place des mesures sociales extrêmement fortes. Et donc la mise en place d'audits citoyens des dettes publiques et par extension, puisqu'aujourd'hui les dettes privées dépassent de manière extrêmement forte les dettes publiques, des audits citoyens sur ces dettes privées, et donc quelque part une remise en question fondamentale du modèle économique dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui. Et donc c'était la première alerte en disant attention, un revenu de base mis en place sans une réflexion profonde, sans une réappropriation démocratique et transparente du fonctionnement de nos monnaies risque d'aboutir sur des choses qui seront, dans le meilleur des cas, inefficaces, voire contre-productives. Le deuxième point, c'est...
Si tu veux bien, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui voudraient creuser un petit peu ces réflexions, parce que autour de la monnaie, on a déjà reçu Frédéric Bosquet, qui nous a parlé de l'expérimentation de Terra, et donc qui a développé aussi comment se construisait une monnaie locale et avec quels enjeux. Et on a reçu aussi Virginie Cora, qui nous a parlé de la monnaie libre. Donc voilà, une autre dimension, un autre réseau. Donc je renvoie les auditeurs qui voudraient approfondir ces deux notions à ces deux épisodes-là. Excuse-moi de t'avoir interrompu.
Non, c'est très bien, et je salue Frédéric, qui nous apprécie beaucoup les travaux et qui, je crois, avait aussi beaucoup suivi nos réflexions sur la dotation inconditionnelle de l'autonomie et la question de la monnaie. Donc la question de la monnaie qui est centrale, et dans la décroissance d'ailleurs, il y a de plus en plus de discussions qui émergent aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de la monnaie? Est-ce que la monnaie n'est pas quelque chose qui pervertit nos imaginaires, nos rapports humains, nos échanges? D'ailleurs, nous, à Cargonomia, on a une coopérative où on expérimente beaucoup d'économies de réciprocité. On revient à des modèles économiques dans des écosystèmes, dans des réseaux où la monnaie joue un rôle quasiment peu présent, voire très faible, ce qui permet là aussi de voir à quel point la monnaie pour pervertir les rapports humains, donc c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est le premier point, poser la question de la monnaie. Le deuxième point, c'est la question des inégalités. Le fait de parler et de décroissance et de minima de sociaux, de vie, de survie pour toutes et tous, ce que propose de manière inconditionnelle et individuelle le revenu de base, passe nécessairement par une question qui est doublement importante d'un point de vue justice sociale et limite du mode de vie des plus riches, donc question de partager, etc., mais aussi une question symbolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode de vie des plus riches est quelque chose qui est en permanence mis en avant, présenté par les médias dominants, par les réseaux sociaux, par les influenceurs, les influenceuses, la publicité, comme une condition sine qua non pour avoir une vie qui réussit. Pour des raisons de justice sociale, de partage, la nécessité de faire moins, donc de partager plus, et puis des raisons symboliques de sortir de ce mythe du mode de vie des plus riches, il est essentiel de coupler ce revenu de base à un revenu maximum acceptable. Donc au-delà d'un certain niveau de revenu, on va taxer tout ou quasiment tout. C'est une vieille idée, comme le revenu de base, on ne l'a pas inventé, on reprend des choses qui ont déjà été expérimentées, qui sont débattues depuis très longtemps. Et au-delà de cette question-là, puisqu'aujourd'hui les inégalités sont encore plus le fruit que des inégalités de revenus, encore plus le fruit des inégalités de patrimoine, se pose la question, des questions extrêmement sensibles et difficiles sur l'héritage, sur le droit de propriété quand celui-ci va à l'encontre de l'intérêt général, sur des redistributions extrêmement ambitieuses qui amènent à ouvrir le débat, la question sur les communs, donc d'autres formes de gouvernance d'un point de vue de la propriété, ni privée ni publique. Je pourrais développer là aussi pendant des heures, mais je balais rapidement, et peut-être que tu as fait des émissions déjà sur ces notions-là, sinon il faudra le faire. Donc là aussi, qui pose la question, est-ce qu'on parle d'un revenu de base uniquement en argent, ou on parle d'un revenu de base qui va questionner la question de la propriété et donc de l'accès pour toutes et tous à un certain nombre d'espaces, un certain nombre de quantités, de ressources, d'énergie, et puis aussi de connaissances, de savoir-faire, et ainsi de suite. Et donc j'en arrive au troisième point qui est dans cette logique de démonétisation du revenu de base, dans cette logique de décroissance des inégalités, de redistribution, d'aller vers les communs, on a voulu articuler ce revenu de base de la création, de la mise en place d'un certain nombre d'autres leviers économiques, notamment autour des gratuités du bon usage, renchérissement du mésusage pour un certain nombre de ressources. Pourquoi payer le même prix de litre d'eau? Et on voit à quel point aujourd'hui, en période de tension hydrique, l'eau est une ressource extrêmement rare et centrale. Donc, pourquoi payer le même prix de litre d'eau que l'on utilise pour ce que l'on considère démocratiquement comme étant un bon usage? Donc, l'eau pour boire, pour faire la cuisine, pour se laver, pour laver ses habits, par exemple. Pourquoi payer le même prix, un mésusage de l'eau que l'on pourrait utiliser pour arroser un golf, pour fabriquer une puce électronique ou pour laver son 4x4 ou remplir sa piscine individuelle? Donc, toute une réflexion sur gratuité du bon usage et un accès gratuit à un certain nombre de ressources jusqu'à un certain niveau de consommation que l'on considère comme étant du bon usage et un renchérissement qui fait le lien aussi que cette notion de revenu maximum acceptable. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de consommation, de surconsommation, on va payer un prix extrêmement fort dans une logique de redistribution. De la même manière, on a évoqué, on parlait tout à l'heure de Frédéric, éventuellement la mise en place de monnaies locales et complémentaires qui pourraient s'inscrire dans des territoires, qui pourraient être dédiés pour un certain nombre de produits et services respectant une certaine charte éthique et qui ont l'avantage de recréer une relocalisation de nos économies et de recréer des solidarités, du lien dans ces territoires. Donc un outil peut-être transitoire, un outil peut-être à développer sur du long terme. Le débat reste ouvert, mais on trouvait que c'était intéressant de réfléchir ce revenu de base décliné autour d'un certain nombre de services de proximité, de produits de proximité, en recréant du lien dans les territoires. Et puis, dernier point, et c'est une critique que l'on voit souvent revenir chez nos amis des gauches classiques autour du revenu de base, puisque le revenu de base a été aussi porté par des gens qui avaient un projet de société plutôt libéral ou libertarien, comment ce revenu de base peut s'articuler avec une défense des services publics vraisemblablement à renforcer et donc d'inclure dans le revenu de base ce qu'on appelle en anglais Universal Basic Services, donc des services publics de base gratuits pour toutes et tous, en réfléchissant à chaque fois sur leur contenu, donc avec la santé, avec l'école, avec peut-être des transports de proximité, avec, moi j'aime bien le mettre dedans toujours, la question des pompes funèbres, qui devrait être un service public pour toutes et tous gratuit, parce qu'on est dans une période importante de nos vies, mais très difficile à vivre quand on perd un proche. Donc, ce sera intéressant de réfléchir à un service public autour de ça. Et à chaque fois, c'est que ce soit pour les gratuités pour un certain nombre de ressources, les monnaies locales et complémentaires, les gratuités pour des services publics, c'est aussi à chaque fois une invitation, et c'est le quatrième point autour du revenu de base, à faire vivre la démocratie autour de délibérations citoyennes. C'est-à-dire que l'approche dotation inconditionnelle d'autonomie invite à des délibérations citoyennes sur quels sont véritablement nos besoins fondamentaux et comment on y répond collectivement de manière soutenable, évidemment, mais aussi d'un point de vue juste, d'un point de vue joie de vivre, c'est-à-dire en répartissant les tâches difficiles, parce qu'il restera vraisemblablement un certain nombre de tâches difficiles à penser, à faire vivre, en réfléchissant le contenu de qu'est-ce que l'on produit, comment on le produit, pour quel usage. Et l'enjeu de la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est un outil de transformation des imaginaires, de transformation sociétale, d'accompagnement à une sortie de la société de croissance et de l'emploi contraint avec les inégalités qu'on connaît aujourd'hui, pour aller vers de nouveaux modèles de société construits autour de d'autres belles valeurs, d'autres beaux principes qu'on va retrouver dans la décroissance, comme par exemple le care, les communs, la joie de vivre, la convivialité, l'autonomie. On retrouve d'ailleurs dans le jargon dotation inconditionnelle d'autonomie cette notion d'autonomie au sens de démocratie directe, amener aussi une réflexion sur des enjeux sociétaux comme l'écoféminisme, amener une réflexion sur les relations nord-sud, amener une réflexion sur notre rapport au temps, notre rapport aux activités, et puis toute une réflexion aussi sur un accompagnement, parce que le revenu de base pour les créatifs culturels qui ont des capacités, des réseaux, peut être très bien vécu, mais peut être vécu de manière pas tout aussi facile pour des gens qui vont être socialement isolés, qui vont être dans des territoires peut-être plus reculés. Je pense notamment à des femmes seules avec des enfants dans des territoires ruraux plus retirés. Comment on pense aussi une réorganisation du territoire, une réorganisation des solidarités, donc un revenu de base qui est tourné aussi vers pas uniquement la liberté individuelle qui est fondamentale, mais une liberté individuelle au service d'une co-construction d'autres formes de solidarité, de vivre ensemble et de partage.
Waouh. Eh bien, je te propose une petite pause musicale pour histoire de digérer tout ça, avec un groupe qui s'appelle Pang, qui vient de Bruxelles, et qui ont une chanson qui s'appelle « Bon, allez, pour ce coup-ci, on va mettre « Fais-le », c'est parti !»
Tick 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 t fait le plein de produits locaux, c'est sain, le panier bio. Viens, viens, rejoins le réseau. Tiens, 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 prends ta part du gâteau, c'est effectif. On se mobilise en collectif, on se galvanise. Nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable.
Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin. C'est une pièce unique, pas une énième réplique. Une chose qui a surgi dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé. Que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait.
Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette. Ouais, je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la braise de la vie. Et mon monde fleurit à mon image de vous émodeler. Prends le pouvoir de l'univers, à toi de faire.
Les boulangeries sont fermées. Dans mon placard, j'ai que de la farine de blé complet. Au sel et levain, une heure après, j'ai fait mon pain. Deux pas dans le jardin, je cueille tomates et mesclins. Les graines, c'est un cadeau du voisin. À le v'là qui débarque avec ses falafels au cul, main. 100% fait main. Tel sera notre festin, ouais.
Si tu veux un vélo, fais-le. Si tu veux un gâteau, fais-le. Si tu veux une sucette, fais-la, si on t'en empêche, bouge-toi le derche. Si t'as des cruches, fais-les, que t'as chaud, que t'as séché, fais-le, que t'as les crocs, t'en peux plus, fais-lui. Si t'es un chat, fais-l'un, que tu veux grandir, fais lion. T'aimes dormir, fais lit, tes jouets, fais-loi. Fais ton pain, fais le vin, fais du vin, fais le bien, puis fais le malin, fais en mandarin, fais ta main, fais du lien, fais du gras, ça fait tiens, fais un rien, on s'en fout ou sois fou, fais tout.
Et voilà, c'était Pang sur les ondes de Radio Campus 106,6 et nous sommes toujours pour l'émission Tous Essentiels à débriefer autour de la version des décroissants.
Avec Vincent. Donc Vincent, la grande question maintenant, parce que tu nous as alléché avec un projet de société extraordinaire et extraordinairement joyeux. Concrètement, comment est-ce que ça peut se mettre en place, cette fameuse dotation inconditionnelle d'autonomie, en prenant tout projet de société dont tu as parlé, le revenu maximal acceptable, monnaie libre, gratuité, etc.
Exactement. Alors un peu pour peut-être résumer en une phrase ou deux ce que je viens de dire, parce que ça balayait beaucoup d'idées, beaucoup de choses.
C'est riche.
Donc cette dotation inconditionnelle d'autonomie reprendrait les mêmes principes que le revenu de base pour toutes et tous, de manière inconditionnelle, de manière individuelle, et poserait la question de comment donner de la naissance à la mort un droit de dignité, un droit inconditionnel pour toutes et tous, pour avoir accès à ce que l'on considère démocratiquement comme étant suffisant pour avoir une vie digne, une vie qui mérite d'être vécue sur cette planète. Mmh. Et donc cette dotation inconditionnelle d'autonomie, contrairement au revenu de base, serait partiellement, majoritairement, voire totalement démonétisée. Donc ne serait pas donnée en euros, mais serait donnée en droit d'accès sur un certain nombre de ressources, l'eau, l'énergie, des mètres carrés pour habiter, des mètres carrés pour avoir des activités riches de sens. Droit d'accès à des services publics, santé, école, pompe funèbre, transport, en posant la question à chaque fois de quelle école souhaitons-nous, quel système de santé souhaitons-nous mettre en place. C'est-à-dire que si c'est pour donner la gratuité vers des choses qui ne sont pas nécessairement les plus intéressantes ou les plus cohérentes d'un point de vue de décroissance, ça n'a pas un grand intérêt. Si c'est pour garder le même système de santé dans les mains du lobby pharmaceutique, avec des sociétés qui génèrent énormément de maladies de civilisation liées au stress, à la malbouffe, des modes de vie inadaptés, la pollution atmosphérique, etc. Ça n'a pas grand sens. Donc, revenir à l'essence de la santé, ton médicament sera ta nourriture. C'est d'articuler toutes ces réflexions-là démocratiques. Et puis, un certain nombre, et puis une partie qui peut être donnée en monnaie locale et ou complémentaire pour des services de proximité, des biens de consommation de proximité, etc. Et on peut se garder une monnaie supranationale ou nationale et avoir une partie qui reste donnée dans cette monnaie-là, ce qui permet de voyager ou d'avoir un pan de liberté pour consommer d'autres choses que ce qu'on évoquait par rapport au droit d'accès et de tirage à un certain nombre de ressources gratuites. Donc ça, c'est le premier résumé. Et donc, on voit bien passer de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui et arriver à un tel dispositif n'est pas quelque chose de très aisé et pas nécessairement très intuitif à mettre en place tout de suite. Et donc, dans nos réflexions, notamment dans le bouquin Un projet de décroissance de 2013, et je salue d'ailleurs mes co-auteurs et co-autrices Stéphane, Christophe et Anne-Isabelle, dans nos réflexions, on avait réfléchi à certaines étapes de mise en place pour aller vers la dotation inconditionnelle d'autonomie. La première étape...
Vincent, oui. J'ai quand même envie de signaler et de rappeler qu'en tant que Français, on est sans doute un des peuples, en termes de, je pense en termes de nation, d'État, de construction, à être le plus proche de ça. Parce qu'avec notre système social, depuis le Conseil national de la Résistance, on a quand même une systémie, bon d'accord, qui est grignotée de plus en plus, mais voilà, les services publics, on commence de plus en plus à parler de biens communs. Donc on devrait être... J'imagine, par rapport peut-être à des Américains ou autres, les premiers à être sensibles à ça. Finalement, la DIA est juste le pas suivant pour nous, par rapport à tout notre système sociétal. Psychologiquement, ça devrait être plus facile, non ?
Je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis. et vivant à l'étranger depuis plusieurs années, en ayant vécu notamment aussi aux États-Unis, en France, on avait en fait... que ce soit le revenu de base ou la dotation inconditionnelle d'autonomie, on l'avait déjà de fait en place plus ou moins avec quelques emmerdements et pas la philosophie qu'il y a derrière. Je pense notamment à tout le flicage par rapport au RSA, par rapport au Pôle emploi, etc. Et toute l'humiliation que ça peut amener. Mais on avait, si je repense à la France de mon enfance des années 80, on était dans une belle société très socialiste avec un accès quasiment gratuit à tous les services publics, avec des minima sociaux qui permettaient d'abandonner très peu de personnes. Mais comme tu le dis, ça a été quand même grandement grignoté et depuis une petite décennie, de plus en plus violemment grignoté. Et malheureusement, on assiste aujourd'hui à l'effondrement d'un certain nombre d'institutions publiques qui étaient très belles, si on prend juste l'exemple de la santé, où il y a même cette souffrance au travail. On parlait des métiers du care. En général, c'est des métiers que l'on fait par... vocation avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'estime de soi, beaucoup de fierté, un enthousiasme. Et aujourd'hui, on voit des gens qui vont démissionner de ces beaux métiers, qui sont des métiers durs, parce qu'ils n'ont plus les conditions de travail qui permettent de bien faire leur travail. Donc l'importance d'un revenu de base ou d'une dotation inconditionnelle et tout ce que j'évoque d'un point de vue philosophique permettrait de sauver ce qui n'a pas encore été détruit. Et je dirais même de mettre un petit coup d'accélérateur en y donnant encore plus de sens et encore plus de solidarité. Et donc, différentes étapes par rapport à ça. La première étape qui est celle que l'on est déjà en train d'observer, qui est de rendre visible ce qu'on a évoqué en début d'émission, c'est qu'en fait, une grande partie des choses essentielles à notre bien-être sont faites à l'extérieur de l'espace marchand et que la mise en place d'un revenu de base ne transformerait pas grand-chose. Peut-être on arrêterait de produire des choses toxiques, on devrait réorganiser certains secteurs, certains métiers seraient peut-être fuis, ce qui nous amènerait à nous poser la question sur l'intérêt de ces métiers et s'il reste important peut-être à repenser la manière dont on organise ces tâches difficiles en leur donnant beaucoup plus de respect et de dignité. S'appuyer aussi sur ce qu'on observe depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, l'émergence d'initiatives citoyennes, l'émergence de transformations dans les choix de consommation, dans les choix d'utilisation du temps libre dans nos sociétés, on voit des dynamiques sociétales extrêmement intéressantes vers des AMAP, des jardins partagés, des systèmes d'échanges locaux, des espaces de gratuité, le troc, des monnaies locales, la participation à une vie beaucoup plus démocratique, beaucoup plus locale. Donc on est déjà dans des sociétés qui sont en pleine transformation. Et il y a encore plus de gens qui aspirent à rompre avec ça et à aller vers vers ce type de mode de vie, ce type de coopérative, ce type d'initiative citoyenne qu'on retrouve dans tous les territoires. Et donc, en partant de là, on pourrait imaginer qu'on n'a même pas besoin de transformation institutionnelle, que culturellement, les dynamiques sont telles qu'à terme, sur un temps peut-être assez long, la société évoluera vers une forme beaucoup plus coopérative, vers une forme où on s'auto-institue de manière assez forte des choses comme la dotation inconditionnelle d'autonomie ou le revenu de base.
En tout cas, il y a beaucoup d'aspiration des gens.
C'est peu vraisemblable parce qu'on le voit, les points de blocage sont extrêmement forts dans un système économique aliénant. On le voit aussi aujourd'hui avec l'inflation, l'explosion des inégalités qui fait qu'on est toujours plus contraint à accepter des bullshit jobs. On le voit avec aussi des études qui deviennent toujours plus payantes. Ça aussi, c'était une particularité merveilleuse française. Moi, j'ai pu étudier dans des conditions tout à fait remarquables sans devoir payer, sans devoir faire un emprunt comme mes amis états-uniens ou anglais. On est rattrapé par ça aussi. Et puis, donc, on voit économiquement comment on est contraint. Et donc, une première étape par rapport à cette tension entre le mal-être au travail qui explose, l'aspiration à se réapproprier du temps pour avoir des activités riches de sens, pourrait être quelque chose qu'on a un peu oublié en France, parce que les 35 heures ont été violemment critiquées. Certaines critiques étaient justes, d'autres beaucoup moins, beaucoup plus malhonnêtes. Revenir à cette notion de travailler moins pour travailler toutes et tous, et qui dit travailler moins, c'est par choix se réapproprier du temps à investir pour des choses beaucoup plus ludiques, beaucoup plus sympathiques dans nos vies. Et donc, on aurait une première étape de transformation sociétale où, globalement, en moyenne, on travaillerait moins. Ceux qui souffrent aujourd'hui de ne pas avoir d'emploi auraient accès à un emploi. Ceux qui souffrent aujourd'hui de devoir accepter de continuer à avoir un bullshit job qu'ils détestent et aimeraient avoir plus de temps libre auraient, par exemple, un droit opposable au congé sabbatique ou au temps partiel, ce qui permettrait des familles de se réorganiser, la société d'être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée, de dégager du temps pour transformer encore plus, en partant du bas, tout le tissu sociétal, social, où on réinvente de nouvelles manières de produire, d'échanger, de prendre des décisions. Une étape suivante serait la mise en place, et là je prêche des convaincus, vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi, la mise en place d'un revenu de base inconditionnel, classique, que l'on sait financer, qui techniquement est très facile, administrativement très facile à mettre en place, beaucoup plus simple administrativement que ce que l'on connaît aujourd'hui avec nos minima sociaux abscons et humiliants que l'on connaît bien et donc dans lesquels on se perd avec en plus toute cette notion de flicage. Et donc ce revenu de base inconditionnel permettrait de passer une étape supérieure et des personnes déjà engagées dans des reconversions de vie, dans des choix de vie différents, pourraient totalement se dégager de leur emploi contraint et s'investir dans d'autres modes de société, dans d'autres modes de vie. Et puis, le coupler à un revenu maximum acceptable, le coupler à une reprise en main économique de la banque centrale, de la création monétaire, peut-être nationalisation des banques, un grand contrôle en tout cas sur cette économie financiarisée qui n'a plus aucun lien avec l'économie réelle, des audits des dettes publiques et privées pour redistribuer les cartes et ne pas rembourser les parts illégitime de ses dettes, exproprier celles et ceux qui ont acquis de manière malhonnête un certain nombre de choses, et donc toute une logique de, à travers des conventions citoyennes, on pourrait faire des audits des dettes autour de conventions citoyennes, à travers la mise en place de modes de gouvernance alternatifs sur la banque centrale, peut-être par du tirage au sort, peut-être trouver, faut faire preuve de créativité autour de ça, de commencer à faire revivre la démocratie pour faire ce que Karl Polanyi, le Hongrois, appelait réencastrer l'économie, mettre l'économie à sa place. Donc de vraiment encadrer intelligemment la mise en place d'un revenu de base pour qu'il ne soit pas absorbé immédiatement par un jeu à somme nulle autour d'une inflation, autour d'une redistribution de cartes dans une économie financiarisée. Et puis, partant de ces différentes dynamiques, à la fois une société qui change par la base, des gens qui se réorganisent dans les territoires pour produire ce dont on a vraiment besoin différemment, pour échanger de manière non marchande, pour prendre des décisions de manière plus délibérative, plus directe, avec des minima sociaux, avec un réencastrement de l'économie, avec des maxima sociaux, on pourrait décliner en démonétisant de manière décentralisée, de manière relocalisée, le revenu de base. Donc là, tu me parles de la région lilloise, si je ne me trompe pas. À Lille, on pourrait dire que c'est mis en place de la revenu de base, une régie publique de l'eau qui permet à toutes et tous d'avoir un certain nombre de litres d'eau gratuits chaque mois. Donc au lieu de toucher 1 500 € par personne par mois autour de ton revenu de base, tu vas toucher 1 400 € et des litres d'eau. De la même manière, c'est mis en place une monnaie locale autour d'un réseau d'agriculture urbaine et d'une ceinture vivrière de production de fruits et légumes bio, avec cette monnaie locale qui tourne autour de ça. Et donc, tu ne touches plus 1 400 € et des litres d'eau, mais 1 000 € de la monnaie locale pour les légumes bio de proximité et tes litres d'eau. Et on pourrait décliner sur différentes dimensions avec, par exemple, une transformation en profondeur du système de santé. On remet en place un véritable système de santé public de qualité avec une gratuité d'accès pour toutes et tous. Et donc, on aurait donc une démonétisation de ce revenu de base et une transformation en profondeur de la société, avec à la fois des transformations macroéconomiques qui viendraient d'en haut et de choix démocratiques, et puis en même temps des transformations qui viendraient de la société civile d'en bas autour de la réorganisation, de la réappropriation de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage. Le tout animé autour de délibérations citoyennes sur le sens de nos vies, la place du travail, nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable et souhaitable. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place sur un temps relativement court, à condition que l'on fasse le pari de la démocratie directe. Et on a pu voir comment, avec la Convention citoyenne pour le climat, en l'espace de quelques semaines, des citoyennes et des citoyens tirés au sort, mis dans un cadre de controverse bien construite, arrivent à des propositions, à des conclusions de choix sociétaux qui sont beaucoup plus à la hauteur des enjeux que pose la décroissance, pas uniquement d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue anthropologique, pour y répondre de manière assez forte. Et c'est un peu le pari de la décroissance autour de la dotation inconditionnelle d'autonomie, un pari de démocratie directe et un pari de justice sociale.
Oui, alors, ce qui est intéressant aussi dans cette dynamique qui part aussi de la base, je dis aussi parce que voilà, tu as aussi quand même cité le macro, mais c'est que quand un changement vient de la base, il y a en même temps un côté, c'est une autonomie, on n'est pas obligé d'attendre le grand soir, on n'est pas obligé d'attendre que le monde change, que les politiques soient d'accord, etc., et pour déjà changer des choses. Il y a aussi une histoire de respect du rythme qui me vient, c'est-à-dire que on peut se dire ben là maintenant j'ai envie, je m'investis et individuellement et collectivement, et on se lance dans un projet et puis on tâtonne et puis on se plante et puis on rebondit, et parce qu'au plus on se plante au plus on pousse, enfin voilà, et en même temps ben peut-être que voilà, si demain je j'ai un enfant ou si demain je suis malade, ben je peux ralentir. Donc il y a un respect du rythme individuel et collectif, parce que tous les grands changements, s'ils viennent d'en haut ou s'ils sont décrétés, ben il y a souvent un mouvement de balancier inverse, hein, parce que ça fait peur, parce que voilà. Et donc, j'aime bien cette idée que ben, on a déjà du pouvoir dès maintenant, qu'on peut déjà commencer. Et ça me fait penser, quand tu parles de démocratie, il y a un MOOC qui a fait des millions de vues sur Internet. C'est le MOOC des Colibris qui s'appelle Gouvernance partagée. Il y a aussi tout ce mouvement du municipalisme qui a touché la France et dont on parle. Et tout ça, c'est des graines. Et j'entends dans ta façon de voir cette dynamique quelque chose qui réunit un peu tout ce qui se fait déjà. Et tu parlais de régie publique, tu parlais des SEL, tu parlais de plein de choses, des AMAP, et de se dire, mais on n'est pas tout seul, et que tout ça, ça va dans un sens, ça va dans le bon sens, pas dans le sens de bon dans le jugement de valeur, mais dans le sens bon pour la vie, la nôtre, celle de la planète. Et il y a quelque chose d'enthousiasmant et de rassurant aussi à voir qu'on n'est pas tout seul et qu'on va dans une direction commune, et qu'il y a une synergie à créer, quoi.
Bah, je ne peux qu'être entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire de manière Merci. Très synthétique et très juste. Et je dirais que c'est un pari, quand je parle du pari de la décroissance autour de la dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est un pari qui n'est pas risqué dans le sens où il s'appuie sur de l'expérimentation concrète que l'on peut observer aujourd'hui partout dans tous les territoires et qui montre l'efficacité, pour utiliser un mauvais mot du système de ces démarches beaucoup plus autogestionnaires où les citoyennes, les citoyens s'emparent de ces enjeux de société. En général, c'est beaucoup plus efficace que des dynamiques top-down, très imposées et violemment est violemment, violemment imposée. On voit l'inefficacité qu'a pu être, ou la violence qu'a pu générer la taxe carbone avec le mouvement des Gilets jaunes, qui d'ailleurs, quand on regardait dans le détail, n'était pas contre le fait de changer de modèle de société pour aller vers des modes de vie beaucoup plus sobres et beaucoup plus partageux, mais était contre la manière arrogante imposée d'en haut que ça avait été mis en place. Et dans toutes les études d'opinion, quand on parle de décroissance ou de sobriété, on se rend compte que, un, les gens sont déjà en grande partie engagés dedans, comprennent les enjeux, aspirent à y aller, et de deux, sont prêts à aller encore plus loin sous deux conditions. La première, que ça se fasse autour d'une démocratie beaucoup plus délibérative à laquelle ils participent, c'est-à-dire d'être actrices et acteurs de ces transformations. Et la deuxième, que ça se fasse de manière juste. Quand on parle de sobriété, quelle que soit la manière dont on prend les chiffres, la sobriété doit se mettre en place de manière proportionnelle à son niveau de richesse et de revenus. Donc grosso modo, plus on est riche, plus elle va amener à se remettre en question, et plus on est pauvre, plus elle va amener à retrouver des espaces de dignité, de solidarité et de partage. Et puis, dernier point, je dirais que c'est aussi une manière pragmatique d'aller très vite. C'est-à-dire que si tout le monde comprend les enjeux, est en capacité de s'emparer des enjeux et commence à co-construire des réponses à ces enjeux, on va beaucoup plus loin que si seulement une petite élite éclairée aurait compris les enjeux et essaye de les imposer à des populations qui n'y comprennent rien. Donc d'un point de vue pragmatique, si on veut aller, si on veut aller loin et même peut-être vite, allons-y à plusieurs en donnant les moyens à toutes et tous d'y aller ensemble.
Oui, parce que finalement, si on regarde bien et si on fait un petit effort d'empathie pour sortir d'une certaine zone de confort, les plus sobres aujourd'hui sont, j'aime pas ce terme-là, c'est une horrible étiquette, mais les pauvres, parce qu'eux, ils sont bien obligés, à partir du 15 du mois, d'être même très, très sobres. Sauf que comme c'est pas choisi, c'est souvent mal vécu. D'autant que, comme tu le disais, il y a une richesse, mais complètement décomplexée, qui s'étale partout et qui... voilà, qui impose un modèle que personne n'atteindra, en fait, une espèce de rêve américain complètement détourné. Et donc, la plupart des gens sont déjà dans ces structures-là. La plupart des gens sont sensibilisés à la transition écologique, etc. Maintenant, en France, en tout cas, il y a très, très peu de... Il y a encore quelques sceptiques, mais en tout cas, quand on a envie, on est capable de déplacer des montagnes. Mais ce fameux frein de c'est subi, donc je résiste, je suis persuadée comme toi que quand on a un minimum de sécurité pour soi et pour ses proches, on fait des choix qui sont tout à fait ajustés à soi comme au bien commun, quoi.
Beaucoup plus altruiste, c'est-à-dire que quand on est dans une société de stress économique permanent, on va être beaucoup moins partageux que si on a une vision de la société qu'on sait qu'on ne sera jamais abandonné. Et oui, aujourd'hui, les enquêtes d'opinion montrent que ce sont des majorités qui aspirent à rompre avec le modèle dominant, mais qui sont prises dans des injonctions contradictoires dans leur quotidien. J'ai évoqué rapidement à plusieurs reprises la publicité, les médias dominants qui sont aujourd'hui dans les mains d'une oligarchie financière qui n'a surtout aucun intérêt à ce que cela change. Et donc, ce projet de décroissance, la dotation inconditionnelle d'autonomie, et on a une dimension là-dedans, dans ce que l'on inclut dans la dotation inconditionnelle d'autonomie, doit aussi s'accompagner de délibérations citoyennes sur la place de la publicité dans nos sociétés, qui est un outil de manipulation toxique de nos imaginaires. Donc, nous prônons plutôt une régulation, voire une interdiction extrêmement forte de la publicité marchande, qui est une organisation de fake news généralisée. Si on a de l'argent et c'est une minorité d'entreprises qui dépensent une quantité monstrueuse d'argent, on peut balancer des fake news sur du greenwashing, du green social washing, etc. Et puis la question des médias, quand on voit des médias qui sont aujourd'hui rachetés par des oligarques avec des idéologies d'extrême droite derrière, est-ce que la démocratie fonctionne réellement? Et puis, par extension, aujourd'hui, les plateformes que l'on appelle les réseaux sociaux, dont les algorithmes ont été optimisés, déployés dans une logique d'optimisation des profits publicitaires, qui sont dans les mains aussi de manière non transparente de quelques individus, un Zuckerberg avec son agenda politique, de manière encore plus inquiétante, un Elon Musk avec son agenda politique, choisit individuellement quelle information va apparaître, quel message va apparaître sur nos écrans qu'on a toutes et tous dans nos poches, et qui plus est que les plus jeunes ont de plus en plus toutes et tous dans leurs poches, avec pas nécessairement les outils critiques, intellectuels, de prendre la distance face à ces manipulations qui sont présentes partout. Et donc l'un des points de blocage, au-delà de la question d'une vie digne sans emploi, d'un système économique aliénant, d'un emploi aliénant, l'un des points de blocage, il est vraiment symbolique, culturel, sur les narrations autour de l'omniprésence et de la puissance d'une minorité oligarchique sur le choix des messages imposés dans les réseaux sociaux, les médias dominants et via la publicité.
Et là, on a un pouvoir d'agir individuellement et on peut le saisir. Mmh. Bon, en tout cas, je voudrais pas laisser les auditeurs sur une fin. Donc, je vais citer le site qui présente le livre Un projet de décroissance, mais aussi les livres que tu as écrits après, avec régulièrement des parutions adaptées aussi à l'évolution de la société. Donc, c'est projet-décroissance.net. Et je crois que tu participes régulièrement à l'alimenter.
Exactement, oui.
Et pour ceux qui voudraient t'entendre plus longuement, il y a un certain nombre de vidéos qui sont présentes sur Internet. Il suffit, j'ai testé, de taper ton nom.
Oui, non, bon, merci beaucoup en tout cas de ta participation à notre émission. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et puis, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, j'en suis ravi.
Et il le dit rarement. Donc...
Mais quand je ne suis pas d'accord, je le dis aussi.
On m'avait mis un gros défi en début d'émission. Apparemment, je ne suis pas trop planté.
Ça va.
Et ben, si vous voulez continuer les lectures et les débats, on a notamment sur le site cité par Virginie une page « Les revenus de base vus et discutés et débattus par un projet de décroissance ». Et puis aussi, on parle indirectement de revenus de base, place du travail, etc. dans mes deux derniers ouvrages, donc Décroissance fait cornote et Sobriété la vraie avec Isabelle Brockmann.
Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Malheureusement, notre émission est terminée là maintenant, mais j'espère que tu auras l'occasion de revenir sur une prochaine émission. On se quitte avec une toute dernière chanson de Pang, de nouveau, Les Potagers. Et puis, du coup, rendez-vous le mois prochain.
Merci Vincent,
au revoir,
à bientôt.
Merci.
Au revoir,
à très bientôt.
C'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil si t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles. BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Joe fait pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt, on t'est mise dans le cou. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre crew. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions. Tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête ou ton petit marrant, ici tu pousses des bêtes et des potimarrants. Yo, c'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpée?
Tout le monde s'accarate et tout le monde son poireau. Personne qui parade, personne qui reste le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpée?
Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans arbre, personne ne reste sur le côté.
TSP, mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP, mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le bois, mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse d'eau. Étape 4, t'arrêtes la chasse et t'adoptes le saut. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les fesses rouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es danseur, caca, caca, caca. alors rejoins le toilette pour moi.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde a carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Et on peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger que j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler, mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer, planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires, je cultive la terre. Me shoot au nucléaire, mec je connais les affaires. Big up aux fruits, légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant je prends des agrumes comme les dames de Shaquille. Dimanche pile mon tracteur en mode gangster. La tête K.A. à l'envers pour renifler la terre. Peigne dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon crew, les pesticides sauvages. On rajoute du goût, fais passer le message.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde a carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde ton cochon et tout le monde ton poney. Et même sans arrond, personne ne reste sur le côté.
Yo, bang, bang, monkey mix, MC Grenadier, MC Click 2012, yo, ya, Bruxelles, Belgique.